Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h. Charles Matin.
Pierrick Bonneau.
4h57 sur RMC, nous sommes le vendredi 22 juillet. Bon réveil, bienvenue à tous dans la matinale d'RMC, bon courage à ceux qui travaillent. Bonne route si vous êtes sur le chemin des vacances, c'est un gros week-end de départ, soyez prudents. Avec cette année, une grosse contrainte qui pèse sur le porte-monnaie des vacanciers, le prix de l'essence. Certains ont tout simplement renoncé à partir cet été ou doivent rogner sur certaines de leurs activités pour pouvoir faire le plein. Selon une étude de l'association VVF, plus de la moitié des Français ont pensé changer leur plan cet été à cause du prix de l'essence. Venez témoigner dès maintenant au 32-16 et sur l'appli RMC Direct Studio. Quel impact de la hausse du prix de l'essence sur vos vacances? C'est la question du jour. On vous attend. Racontez-nous ce que vous vivez. Et puis, c'est la fin d'une époque. À 5h40, on va revenir sur une annonce de La Poste hier. Le timbre rouge disparaît le 1er janvier prochain. À la place, une e-lettre rouge à envoyer via Internet ou sur le site de La Poste. Réagissez au 32-16 ou sur l'appli RMC. Êtes-vous d'accord avec le tout numérique? Surtout une manière de supprimer des emplois, dénoncent les syndicats. Vous avez le programme, on va voir quel temps il va faire ce week-end. Bonjour Anthony Kaczmarek.
Bonjour Pierrick, bonjour à tous.
Ça se dégrade par le nord ce matin.
Oui, la masse d'air devient plus instable avec des orages qui vont d'abord concerner les Pays de la Loire puis le Cotentin. La matinée sera en revanche très ensoleillée dans l'est et dans le sud-est. Et puis dans le courant de l'après-midi, ce risque d'orage va gagner aussi la Normandie, les Hauts-de-France, en limite de l'Île-de-France, puis en soirée le Grand Est. Nous aurons aussi des averses donc en région parisienne jusqu'en Bourgogne et puis plus à l'ouest. Le temps sera sec mais assez nuageux. Le soleil va se réfugier près des frontières de l'est et notamment vers la Méditerranée, où là, la chaleur, la canicule va se poursuivre. 13 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Il fera jusqu'à 39 degrés à Montélimar, 37 à Lyon et Grenoble, 35 à Marseille et puis ailleurs. Ce sera plutôt raisonnable, même si c'est au-dessus des valeurs normales pour la saison, avec 33 à Clermont-Ferrand, 31 à Strasbourg. Vous aurez 28 à Paris, 27 à Bordeaux, 26 à Lille et 21 à 25 près de la Manche.
Et Rémi qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Rémi.
Bonjour Pierrick.
Comment ça va?
Très bien et toi et vous?
C'est vendredi, on pourrait être lundi donc ça va.
C'est vrai.
Il est 5h, c'est l'heure du journal.
Vendredi 22 juillet.
L'info sur RMC.
À la une ce matin, Rémi.
Bonjour. Nuit blanche à l'Assemblée. Les députés ont travaillé toute la nuit sur le projet de loi pouvoir d'achat et ils sont toujours en discussion. On va rejoindre Romain Cluzel au Palais Bourbon. Le retour à la maison des évacués de Gironde. Les pompiers commencent à maîtriser les incendies. Puis le Tour de France. On connaît celui qui sera très probablement en jaune dimanche sur les Champs-Élysées. Le Danois Jonas Vingegaard.
Les députés ont travaillé toute la nuit sur le projet de loi pouvoir d'achat.
Oui, de nombreuses passes d'armes cette nuit entre députés de tous bords. On va rejoindre Romain Cluzel à l'Assemblée nationale. Romain, la séance qui a commencé à 21h30 hier soir, elle n'est toujours pas terminée.
Oui, ça y est, on commence à se rapprocher de la fin. Il reste une petite vingtaine d'amendements à étudier et l'Assemblée doit ensuite voter sur l'ensemble du texte. Une séance interminable et peu constructive, estime Erwan Balanant, député MoDem du Finistère.
C'est compliqué depuis le début du mandat, on le savait. Mais là, en plus, avec une séance de nuit où les esprits commencent à s'échauffer, il y a une fatigue d'un certain nombre de députés. Mais en tout cas, oui, on est dans un esprit hyper tendu. Je ne suis pas sûr qu'on fait ce soir du très bon travail. Les députés sont fatigués et je pense que les Français sont aussi fatigués de voir ce genre de querelle qui n'avance pas.
En cause, les nombreuses invectives entre la NUPES et le RN au cours de la soirée. Parti des fachos, Ayatollah vert, les insultes ont fusé, provoquant des incidents et des suspensions de séances à répétition. Cette nuit, les députés ont malgré tout adopté plusieurs dispositifs, notamment sur le plan énergétique. L'Assemblée a notamment ouvert la voie à l'importation de gaz de schiste et accepté la réouverture temporaire d'une centrale à charbon pour éviter une pénurie de gaz dans les prochaines années.
Voilà, la nuit blanche également pour Romain Cluzel à l'Assemblée nationale. Merci Romain. On vous retrouvera évidemment dans le journal de 6h. L'Assemblée nationale qui va ensuite se pencher sur le budget rectificatif 2022 qui doit justement permettre de financer ce projet de loi pouvoir d'achat. Certains élus de la majorité réclament une taxe exceptionnelle sur les super profits. Notons aussi hier ce feu vert du Parlement sur le projet de loi de veille sanitaire. Députés et sénateurs se sont mis d'accord hier en commission mixte paritaire. Le texte prévoit notamment de rétablir possiblement l'obligation d'un test PCR négatif aux frontières extérieures de la France si un nouveau variant particulièrement dangereux apparaît.
Une bonne nouvelle, Rémi, ce matin sur le front des incendies en Gironde.
Oui, ça fait plaisir. Une partie des habitants évacués, 3500 personnes, ont pu regagner leur maison. Le feu de la teste de bûche est désormais contenu. Il a détruit 7000 hectares de végétation. Retour donc dans les habitations. Soulagement évidemment au Pilat-sur-Mer ou à Cabanac et Villagrain.
Vraiment une surprise agréable. Hein, parce que être parti 8 jours de la maison, c'est dur. Même si on était en famille, quoi. J'espère pour moi que c'est la dernière fois. Sans se demander comment on va retrouver la maison. Brûlée ou cambriolée. Mais enfin, rien n'a été touché.
J'ai sauté direction ma chaîne parce que j'étais trop contente de la revoir.
J'ai l'impression de redécouvrir ma maison comme une petite fille, en fait. Vérifier que tout allait bien. Retrouver mes animaux aussi qui étaient en sécurité, heureusement, quand on n'était pas là. Il faut quand même rester vigilant et continuer à suivre les actualités.
Notons que 1800 pompiers restent mobilisés en Gironde. C'est 200 de moins qu'il y a 2 jours. Le ministre de l'Intérieur attendu ce matin en Corse. Gérald Darmanin a reçu hier des élus de l'île de Beauté. Une réunion préparatoire pour poser les jalons de discussions futures sur l'avenir de la Corse, notamment son statut d'autonomie évoqué par le ministre il y a 4 mois. Un bébé de 14 mois retrouvé mort mercredi après-midi à Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a été oublié dans une voiture sur le parking de l'entreprise où travaille son père qui devait d'abord le déposer à la crèche. Ambre Le Poivre.
Il n'y a que 2 kilomètres entre l'entreprise d'aéronautique où il travaille et la crèche de son enfant, mais ce matin-là, l'homme d'une 40aine d'années oublie d'y déposer son petit garçon de 14 mois. Il gare sa voiture sur le parking extérieur et rejoint son bureau. Le bébé reste donc seul dans le véhicule alors que ce jour-là, les températures atteignent les 30 degrés dans la région. C'est finalement en fin de journée, quand la mère se présente à la crèche pour récupérer son garçon, que le père réalise son oubli. Il se précipite sur le parking, mais il est déjà trop tard. Selon les premiers éléments de l'enquête, son fils est mort d'étouffement et de déshydratation. Sous le choc, les parents ont été transférés à l'hôpital de Pau. Une enquête est en cours pour homicide involontaire et si des poursuites étaient engagées contre le père, il risquerait jusqu'à 5 ans de prison.
RMC 5h04, la Russie et l'Ukraine signent aujourd'hui un accord sur les exportations de céréales. 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans le port d'Odessa en Ukraine. L'Ukraine qui est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de céréales. L'accord devrait permettre une sortie par la mer Noire et en retour un allègement des entraves à l'exportation de grains et des engrais russes. Un accord après 2 mois de négociations entre la Russie et l'Ukraine, aidé par l'ONU et par les Américains. Lucille Pascanet.
Les quelques 20 millions de tonnes de céréales bloquées à Odessa quitteront l'Ukraine par la mer Noire. Les Russes ont accepté d'observer des cessez-le-feu localisés sur les zones de passage. Pour les rassurer, les navires en direction d'Odessa seront inspectés, probablement par les Russes, pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucune arme. En contrepartie, Vladimir Poutine a obtenu des garanties commerciales. Les sociétés de transport pourront à nouveau affréter des bateaux de gros tonnage pour acheminer l'engrais et le blé russe, ce qui était interdit depuis le début du conflit. Washington et l'Union européenne ont aussi promis de lever les éventuels blocages sur ses produits dans le transport maritime, les assurances et le système bancaire. Cet accord russo-ukrainien devrait rapidement faire chuter les cours des céréales en très forte hausse depuis le début de la crise. Le prix de la tonne de blé a presque doublé en 6 mois.
5h05 sur RMC, le Tour de France, et on connaît sûrement le grand vainqueur depuis hier.
C'est le Danois Jonas Vingegaard. Il a remporté la 18e étape hier soir à Otakam dans les Pyrénées. Il a surtout creusé l'écart avec son principal concurrent et dauphin au classement général, Tadej Pogacar. Au terme d'une étape épique, Kevin Morand.
Oui, l'image de ce Tour de France restera celle du maillot jaune qui attend Tadej Pogacar dans la descente du col de Spandel. Le Slovène venait de chuter, les deux concurrents se tapent dans la main pour se battre à la loyale jusqu'au bout. Une évidence pour Jonas Vingegaard.
Tadej m'a remercié, je lui ai répondu c'est normal, je ne voulais pas avancer alors qu'il était tombé, donc je l'ai attendu et je referai la même chose à chaque fois.
Pogacar devait tout tenter dans l'ultime étape pyrénéenne. Une première attaque à 40 km de l'arrivée, plusieurs autres en 20, puis une chute donc, et quand Vingegaard retrouve son inusable coéquipier Wout van Aert pour la montée finale, c'en est trop pour le double vainqueur sortant qui, essoré par les deux coureurs Jumbo-Visma, rend les armes. Tadej Pogacar, beau joueur.
J'ai félicité Jonas pour sa victoire d'étape et celle du Tour. Il est très fort et il a gagné les deux. Une très belle étape et maintenant le sort de ce Tour est plus ou moins scellé, même s'il reste 3 jours.
Vingegaard, avec son triomphe à Otakam, ajoute plus d'une minute à son avance sur Pogacar. Un écart confortable au classement général de 3 minutes 26, trop important pour être renversé sur le contre-la-montre demain. Vingegaard n'a plus qu'à rallier Paris sain et sauf.
Voilà, plutôt beau joueur Tadej Pogacar, 19e étape aujourd'hui de ce Tour de France, 188 km entre Castelnau-Monaillac et Cahors.
Refaites-le, Rémi.
Castelnau-Magnoac et Cahors, 188
km. C'est où ça ?
Dans le sud. C'est notre rendez-vous de la semaine. Ce petit coup de fil à Aurélien Thiersin. Bonjour Aurélien. Vous êtes à.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
À Eugene, aux États-Unis. Vous suivez les mondiaux d'athlétisme. Aurélien, 2 Français qualifiés en finale avec des chances de médaille ce week-end.
Ouais, exactement, notamment Gabriel Thual, très costaud sur 800 mètres. Il termine deuxième de sa demi-finale, une course parfaite. C'est le plus rapide dans la dernière ligne droite. Le Bordelais a une bonne tête de successeur de Pierre-Ambroise Boss. Pourquoi pas Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde du 800 mètres en 2017. L'autre Français, malheureusement, Benjamin Robert, éliminé pour un petit dixième de seconde. Finale donc du 800 mètres avec Thual dans la nuit de samedi à dimanche. En triple saut, Jean-Marc Ponviane sera aussi en finale, sixième des qualifications. Belle surprise pour le Nîmois qui a remplacé au dernier moment Melvin Raffin qui était blessé. Et puis il y a quelques minutes, on a vécu une finale du 200 mètres extraordinaire avec notamment l'Américain Noah Lyles qui est champion du monde du 200 mètres en 19 secondes 31, troisième chrono de l'histoire, un centième de mieux que le mythique Michael Johnson. Noah Lyles est donc le nouveau recordman des États-Unis et champion du monde du 200 mètres.
Aurélien Tiercin qui nous fait vivre ces mondiaux d'athlétisme à Eugene aux États-Unis. Merci Aurélien. Un mot de ce week-end de départ en vacances qui commence donc ce soir, week-end chargé sur les routes, journée classée orange dans le sens des départs rouges en région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Ça sera rouge demain samedi dans toute la France et même noir dans la vallée du Rhône.
Vous restez avec nous Rémi, je vous sens joueur ce matin.
Oui.
RMC, la voix du jour.
Vous connaissez le principe désormais, on vous fait écouter l'extrait d'une voix d'un homme ou d'une femme politique et vous nous appelez au 32-16 si vous arrivez à reconnaître cette personne. Le premier qui nous appelle gagne cette semaine un sac de plage et une crème protectrice et hydratante Caresse Source d'eau de Kirinès. C'est parfait pour aller à la plage. Le 32-16 dans quelques secondes si vous parvenez à trouver qui se cache derrière cette voix.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux de vous retrouver pour l'examen de ces deux textes qui visent un seul objectif, protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français.
Il y a beaucoup d'indices dans cet extrait, Rémi. C'était lundi à l'Assemblée.
On peut dire que c'est un ministre ou pas ?
On peut dire que c'est un ministre.
On peut dire qu'il a les yeux bleus ?
On peut dire qu'il a les yeux bleus, ça va faire beaucoup. On va même vous dire que c'est l'invité d'RMC à 8h30 ce matin. Voilà, si vous n'arrivez pas à trouver... C'est que vraiment, vous le faites exprès. À suivre sur RMC, qu'avez-vous dû sacrifier pour pouvoir remplir le réservoir de votre voiture cet été, le prix de l'essence et ses conséquences sur votre budget. Composez le 32-16 pour en débattre avec nous.
RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin.
Pierrick Bonneau.
5h10, le prix de l'essence vous empêche-t-il de passer des vacances normales cet été?
C'est la question du jour sur RMC.
1,98€ avec la remise de l'État, c'est pire sans la remise pour le diesel, 1,97€ pour le sans-plomb, toujours avec la remise, le prix des carburants est toujours à des niveaux records en cette fin juillet, en plein cœur de l'été. Alors quelles conséquences sur votre budget, quelles conséquences sur vos vacances? Vous êtes nombreux à devoir vous adapter et renoncer à certaines activités. C'est un reportage signé Émeric Dantreuil et Sarah Amni.
Cet été, l'objectif de Margot, c'était le Pays Basque espagnol, 700 km en voiture depuis la Bretagne, où elle vit avec sa fille. Mais quand elle voit le prix du carburant...
Là, j'ai payé 86,90€ et j'ai 43,58 €. C'est gavé cher, c'est hyper cher.
Finalement, ce sera l'île de Ré, et même là, le budget essence risque de poser problème.
Ça reste un coût qui empêche de faire d'autres activités, notamment avec les enfants. Tout de suite, on voit plein de choses à la baisse. Donc, le logement, je sais pas, des parcs d'attractions, des parcs zoologiques. C'est sûr que si on est plombé systématiquement avec le carburant, ça nous permet pas de faire autre chose, c'est dommage.
Soli, lui aussi, est obligé de garder en tête cette dépense supplémentaire.
Ah bah oui, c'est excessif. Regardez le prix, 1,90€, c'est énorme. Hein.
Alors, pour les vacances?
Ah bah c'est très simple. Je vais prendre la voiture, elle va faire juste l'aller-retour du domicile, et après je vais louer un vélo. Voilà, je vais louer un vélo et je vais rester dans le coin plutôt que de flâner autour de la région en voiture. Alors on change un peu les habitudes.
Certains espèrent une baisse des prix à la rentrée.
Un 7 ou un 6, ce sera l'idéal.
Pour Antelme, ça ferait une vraie différence dans son pouvoir d'achat.
Ça changerait tout le budget. Ça changerait le fait qu'on pourrait profiter de ça pour aller plus au resto avec les enfants, découvrir d'autres activités, compléter carrément le panier de la ménagère, comment dire. Au lieu de faire 50€ de course... on passerait un peu plus. Ça va apporter plus en pouvoir d'achat.
Malgré un léger repli ces dernières semaines, les prix des carburants resteront à un niveau élevé dans un avenir proche, selon Jean-Pierre Favennec, économiste spécialiste de l'énergie.
Dans l'état actuel des choses, on va rester sur un prix du pétrole relativement élevé et à terme, par contre, il n'y a pas de raison que ça continue à augmenter. Le prix des carburants devrait également rester à peu près au niveau actuel. Je ne vois pas de grands changements dans le prix des carburants, ni à la hausse, ni à la baisse dans les prochaines semaines.
Selon l'association Village Vacances Famille, plus de la moitié des Français envisagent de changer leur plan cet été en raison des coûts des carburants.
Voilà, dites-nous ce que ça change pour vous, hein, cette hausse du prix de l'essence. Le 3216, l'appli RMC onglet Direct Studio. Bonjour Damien.
Bonjour tout le monde, vous allez bien ?
Ça va super, et vous ?
Oh, mais ça va tranquillement, je suis au travail, donc ça va.
Ah, bah oui, puis c'est le week-end dans quelques heures, du coup, pour vous, là, j'imagine.
Alors moi, c'est samedi matin, le week-end.
Ah, d'accord, vous faites quoi dans la vie, Damien ?
Moi, je suis agent de sécurité, rondier intervenant. Donc je travaille de nuit, principalement.
D'accord.
Sauf que moi, je décale toujours.
D'accord, vous nous appelez de Limoges, en Haute-Vienne. C'est quand les vacances pour vous ? Vous avez la chance d'en avoir cette année ?
Alors moi, j'ai posé une au mois de septembre.
Ouais.
Une semaine au septembre. Et là, quand j'ai reçu le pays du mois d'août, j'en ai aussi une.
Mm-hmm.
Donc, peut-être que je partirai au mois d'août. Mais moi, si je pars, je ne prendrai pas la voiture. Je prendrai directement l'avion.
Ah ouais.
L'aéroport n'est pas très loin de la maison, donc c'est avantage.
Et c'est pour des raisons financières que vous avez choisi de partir à l'étranger cette année ?
Non, pas du tout. Non, ça fait depuis 2020 que je vais y aller. Puis bon, il y a eu Covid,
ouais.
Donc tout ça. Donc du coup, j'ai dit bon, cette année, bon, allègement de tout ce qui est protocole. Donc j'ai dit bon, hop, l'avion, c'est aussi rapide. Puis voilà.
Ça coûte cher aussi l'avion cette année. Hein. Beaucoup de Français ont décidé, beaucoup d'Européens ont décidé de partir en vacances à l'étranger. Du coup, les avions sont pleins, comme les trains d'ailleurs. Hein. Et les prix augmentent. Le prix de l'essence, Damien, ça vous inquiète ? Ça vous empêche de faire certaines choses au quotidien ?
Alors, bon, moi, personnellement, je bouge pas beaucoup. Donc, moi, ça me touche indirectement, on va dire.
Ouais.
Mais par contre, le plein du gasoil, oui, il a augmenté. Avant, je faisais le plein... Allez, à 70 euros, j'avais un plein. Non, je suis passé à 145.
Et quand on sait que la remise de l'État va disparaître, hein, normalement, alors les discussions sont en cours à l'Assemblée, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais normalement, selon le projet de loi du gouvernement, cette remise va disparaître au profit d'une indemnité dont on ne connaît pas vraiment le montant, dont on ne connaît pas vraiment les conditions d'attribution. Ça vous inquiète que cette prime disparaisse ?
Ouais, alors c'est inquiétant, oui, parce qu'on paiera beaucoup plus cher. Mais en même temps, l'État français gagne toujours autant d'argent, parce que c'est le seul pays au monde où le gasoil ou l'essence est aussi cher. Juste à cause de la taxe. Toujours. Donc,
ouais.
Faut baisser la taxe, il n'y a pas le choix.
Faut baisser la taxe. Ce que fait déjà indirectement le gouvernement avec cette remise.
Très indirectement.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que ce qui se passe en Russie, les conséquences sur le prix des carburants en France, est une chance pour l'environnement ?
Alors, moi, je dirais que ce sera une chance pour l'environnement quand il y aura moins d'avions, moins de pétrole dans les bateaux qui continueront aussi à naviguer. Parce que les voitures, ce n'est pas ce qui cause le plus. Hein. Maintenant, le gasoil ou l'essence sont tellement à un niveau raffiné qu'elles ne polluent quasiment plus rien. Par contre, tout ce qui est avions, bateaux, les vieilles Michelines sur les trains, tout ça, ça pollue toujours autant. Donc en fait, c'est le problème, il n'y a pas de pollution des voitures. Transports.
C'est là-dessus qu'il faut faire des efforts, selon vous.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Damien. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Il fait quel temps chez vous ?
Oui, ça va. 17 degrés pour l'instant, donc ça va. Il fait bon.
17 degrés.
Ça change la canicule.
Ah bah oui. Il fait frais partout en France, hein, ce matin, ça fait du bien.
Oui,
je vous souhaite un bel été, et puis il est un peu tôt, mais un bon voyage au Maroc en avance en septembre.
Ah oui, je vous remercie, monsieur.
Bonne journée, Damien.
Merci, au revoir.
15h16, c'est l'heure d'RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous.
Et 5h16, évidemment. Tout l'été, on revient dans RMC s'engage pour vous sur les dossiers qu'on a suivis toute l'année. Et on prend des nouvelles. Bonjour, Johanna Chabas.
Bonjour.
Johanna, ce matin, vous reparlez de Laurette. Elle vous avait écrit car elle s'occupait toute seule des chats errants de sa ville et elle n'en pouvait plus.
Oui, nous l'avons rencontrée en septembre à Aisines, près de Bordeaux. Dans son quartier, les chats errants sont partout. Laurette les nourrit, en soigne certains. À l'époque, elle ne recevait aucune aide de la mairie et elle était à bout.
Quand vous voyez des chats qui sont tout maigrichons, qui sont malades, voilà, je ne supporte pas de voir cette misère, alors qu'il y a des solutions simples. La solution, c'est la stérilisation pour éviter donc la prolifération. C'est la seule solution parce que le ramassage sauvage et l'euthanasie débouchera toujours sur la venue d'autres chats.
Donc la demande est claire, financer la stérilisation de tous ces chats. Et à l'époque, vous avez réussi à débloquer la situation.
Et oui, pendant notre reportage, nous avons rencontré l'adjointe au maire qui jusque-là refusait de stériliser les chats. C'était trop cher, une centaine d'euros par animal en moyenne. Elle a finalement accepté de discuter avec Laurette. Et bonne nouvelle, quelques mois plus tard, en décembre, la commune a signé une convention de stérilisation avec la fondation 30 millions d'amis. Depuis, 6 chats ont déjà été stérilisés. Pour Laurette, c'est un soulagement, mais elle attend maintenant que ça bouge au niveau national.
Oui, parce qu'il n'y a pas de chats errants qu'à Bordeaux. Hein. On estime qu'ils sont 11 millions en France. Le gouvernement avait annoncé vouloir s'attaquer au problème. Est-ce que ça a avancé de ce côté-là?
Alors, la loi contre la maltraitance animale est passée en novembre dernier et elle prévoit un bilan chiffré sur la question des chats errants, un moyen de savoir précisément l'ampleur du problème pour pouvoir agir. Ce rapport devait être rendu par le gouvernement le 1er juin, mais aujourd'hui, toujours rien. Malgré les demandes des associations, il n'y a aucune obligation pour les communes de stériliser les chats errants. Donc soit ils prolifèrent, soit ce sont les associations qui assument cette charge. C'est le cas de la fondation 30 millions d'amis. Sa présidente Réa Houtin est en colère face au manque de réaction du gouvernement.
La charge financière des stérilisations pèse donc sur les seules associations. Mais ce n'est pas possible de laisser ça aux associations, puisque c'est vraiment un problème qui concerne toutes les communes et qui concerne le pays, en fait. Donc, vraiment, si on ne s'en préoccupe pas, je vous dis, ça va être des euthanasies en masse de chats et c'est juste pas admissible une chose pareille. C'est dramatique parce qu'il faut vraiment réagir.
Une urgence qui ne semble pas être une priorité hein, aujourd'hui pour le nouveau gouvernement. Je suppose que vous avez relancé l'exécutif également, Johanna.
Eh bien, on a recontacté le ministère de l'Agriculture chargé de rendre ce fameux bilan chiffré. Il nous confirme que les travaux sont toujours en cours et ça risque de durer. On nous dit très clairement que le sujet est compliqué, les concertations prennent du temps. On nous promet une publication dans les prochains mois.
Merci Johanna Chabas, RMC s'engage pour vous toute l'année et tout l'été sur RMC. Évidemment, vous allez suivre ce dossier. Ce sujet a été réalisé avec Mao Becker-Granier. À suivre les petites histoires de Quentin Dubois. On va prendre l'avion ce matin et puis un coup d'œil sur l'actualité dans quelques secondes. 5h21 dans l'actualité ce matin, la lumière toujours allumée dans l'hémicycle. Les députés ont débattu toute la nuit et jouent les prolongations sur le projet de loi pouvoir d'achat. Débat houleux entre la majorité et les oppositions. Les députés de la NUPES ont notamment fait bloc contre le retour aux énergies fossiles voulu par le gouvernement pour parer à d'éventuelles pénuries.
C'est compliqué depuis le début du mandat, on le savait. Mais là, en plus, avec une séance de nuit où les esprits commencent à s'échauffer, il y a une fatigue. Je suis pas sûr qu'on fait ce soir du très bon travail.
Le soulagement pour 6000 personnes enfin autorisées à rentrer chez elles en Gironde. Les incendies qui ont ravagé le département sont en voie d'être fixés ce matin. Les pompiers voient le bout du tunnel après 10 jours d'une lutte acharnée contre les flammes. Et puis, gros week-end de départ en vacances. C'est orange aujourd'hui, rouge demain sur les routes de France et même noir dans la vallée du Rhône. Et dans le ciel, c'est quelle couleur aujourd'hui, Anthony Kazmarek?
Eh bien, c'est plutôt gris et instable sur une large moitié nord, avec des orages qui vont arriver par le nord-ouest ce matin avant de se décaler vers le nord. L'Île-de-France et l'Est en cours d'après-midi. Ce sera nuageux sur la côte atlantique dans l'après-midi là aussi. Et puis, le soleil va se réfugier près des frontières de l'Est et vers la Méditerranée où il fera encore très chaud. On sera entre 35 et 39 dans les 13 départements en vigilance orange canicule. Ailleurs, comptez 27 à 33 degrés et 21 à 25 près de la Manche.
Ce week-end, quelle tendance?
Bah écoutez, on retrouve très vite le soleil hein, pour demain samedi, à peine quelques averses près des reliefs. Et dimanche sera pleinement ensoleillé, ciel tout bleu pour tout le monde. Mmh. Et ce sera très chaud au nord comme au sud.
Autour de la chaleur, on ne va pas atteindre des niveaux de température de cette semaine.
On sera à 31, 32 au nord en moyenne et quand même 35 de moyenne au sud, ce qui veut dire qu'on atteindra sans doute 37, 38 dans certaines régions.
Ouais, c'est frais par rapport aux 40 degrés qu'on a eu finalement en début de semaine. Merci beaucoup Anthony Kazmarek. Les insolites, les petites histoires, les pépites de Quentin Dubois. Tout de suite.
Les insolites de Quentin.
Madame, monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Nous vous informons que les bagages à main doivent être placés dans les coffres ou sous les sièges devant vous.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air.
Bonjour Quentin Dubois.
Bonjour.
Une hôtesse de l'air entre dans le livre des records. Pourquoi ?
Alors, pourquoi à votre avis ? Eh bien, déjà, je vais vous donner son âge. Elle s'appelle Beth Nash, elle a 86 ans.
Pas la plus vieille hôtesse de l'air.
Alors, c'est la plus vieille hôtesse de l'air, mais c'est pas la raison de son entrée dans le livre des records.
D'accord.
Si elle est dans le livre des records, c'est parce qu'elle a la plus longue carrière à ce poste d'hôtesse de l'air, avec 65 ans de bons et loyaux services. Elle a débuté en 1957 à l'âge de 21 ans.
Attendez, à 86 ans, elle est toujours en poste ?
Eh oui, contrairement aux pilotes qui, eux, sont forcés de prendre leur retraite à 65 ans, les hôtesses et stewards n'ont aucune obligation de quitter leur poste avant un certain âge. La seule condition, c'est de se rendre régulièrement à la formation des agents de bord.
Oui, ça peut être un peu dangereux en cas de situation extrême dans l'avion. Ça, ouais. Bon, voilà, faut qu'elle ait quand même ses réflexes.
Un minimum.
L'hôtesse de l'air comme les stewards d'ailleurs. En 65 ans, Beth Nash, cette femme de 86 ans, cette hôtesse de 86 ans, elle pourrait presque écrire finalement l'histoire de l'aviation civile.
Oui, elle a quelques anecdotes effectivement. Elle se rappelle entre autres la distribution de cigarettes et allumettes après le repas, ce qui aujourd'hui est inimaginable. Elle se souvient aussi, et ça c'est moins drôle, de quelques règles un peu drastiques imposées par les compagnies pour lesquelles elle travaillait, comme l'obligation d'être célibataire, par exemple, ou ne pas dépasser un certain poids, sous peine de diminution, voire suppression de salaire. Et pour être sûr de respecter cette dernière consigne, les hôtesses étaient pesées comme les bagages avant chaque vol.
C'est pas possible.
Et si, je ne mens pas. Sa période préférée, c'est l'âge d'or de l'industrie dans les années 60, au cours de laquelle elle a volé avec les Kennedy.
Non mais peser une hôtesse de l'air avant qu'elle embarque, c'est complètement incroyable.
Bah oui, mais c'était les règles.
Inimaginable à notre époque, évidemment. Elle a prévu de prendre sa retraite bientôt, Beth Nash.
Alors, comme le rapporte la chaîne ABC7, tant qu'elle est en bonne santé, aucune envie d'arrêter. Et au niveau de son employeur American Airlines, aucune envie de se séparer d'elle, hein, puisque c'est devenu une figure emblématique de la société.
Merci beaucoup, Quentin Dubois. Ah, je pense qu'il faut attacher sa ceinture de sécurité, j'ai l'impression.
C'est le signal.
Voilà, allez, encore. Vous avez un iPhone ou pas ?
Oui.
On va faire de la pub pour Apple. Enfin, vous allez voir que c'est pas vraiment de la pub. Un Francilien a acheté un iPhone et est rentré chez lui avec un morceau de carrelage. Une histoire d'arnaque qui nous est contée ce matin par le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Mardi dernier, cet homme part acheter pour sa femme le dernier modèle de l'iPhone dans un centre commercial des Yvelines. Près de 900 euros en promotion. De retour chez lui, il tend le cadeau à sa conjointe qui éclate de rire en ouvrant l'emballage. Il y avait un morceau de carrelage à l'intérieur. Le même poids que l'iPhone avec les bords arrondis pour prendre la forme du téléphone, raconte le mari et qui a beaucoup moins rigolé. Je me suis demandé s'ils allaient me croire en retournant au magasin. Alors le Francilien retourne au centre commercial, on lui explique que le téléphone acheté provenait d'un retour en magasin le matin même. L'acheteur avait payé cash avant de revenir réclamer un remboursement sous prétexte que la personne pour laquelle il avait acheté le téléphone n'en voulait plus. Il y avait toujours les scellés sur l'emballage. Le personnel n'a donc pas vérifié que le téléphone se trouvait bien à l'intérieur. Il l'a donc revendu. Sauf qu'il avait été remplacé, ce téléphone, par ce bout de carrelage. Une arnaque de plus en plus fréquente selon la direction du magasin. Et pour la petite histoire, eh bien, notre acheteur a finalement pu repartir très vite avec un vrai téléphone sans avoir à le repayer. Heureusement, 5h26, je crois que nous avons un gagnant.
RMC, la voix du jour.
Ce gagnant s'appelle Claude. Bonjour Claude.
Bonjour.
Alors, on va tout de suite réécouter la voix du jour. Bon, c'était facile ce matin, on vous a donné beaucoup d'indices. Vous nous dites dans un instant à qui vous pensez.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux de vous retrouver pour l'examen de ces deux textes qui visent un seul objectif, protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français.
Alors, qui est ce monsieur, Claude ?
Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, ouais. Effectivement, lundi à l'Assemblée, au moment du début de l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Bon, c'était facile quand même, mais c'est quand même une voix de la Macronie et du quinquennat passé et de celui qui vient de commencer. Vous habitez où, Claude ?
À Haute-Loire.
C'est où, ça ?
À côté du Puy-en-Velay, Auvergne.
À Haute-Loire, d'accord. Vous habitez dans le département de la Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay. Il fait beau chez vous ce matin ?
Ouais, ciel dégagé, bon. Et voilà. Il y a déjà 15 degrés, donc...
Anthony Kaczmarek nous disait à l'instant qu'on va tous passer un bon week-end, globalement. Il va faire beau ce week-end, donc faut en profiter. Pas trop chaud, en plus, donc profitons-en. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end, Claude. Et vous repartez, vous le savez, avec votre sac de plage, une crème protectrice hydratante, Caresse, source d'eau de Kirines. Voilà.
Ben, merci beaucoup et bon week-end à vous aussi.
Bon week-end. Restez avec nous dans un instant, la météo et le journal. Bonjour Thibaut Texer.
Bonjour Pierrick, bonjour à tous. La situation s'améliore sur le front des incendies. 6000 personnes autorisées à retourner chez elles en Gironde. Pour autant, plusieurs 1800 pompiers restent mobilisés sur place pour éviter la reprise des feux. L'Assemblée nationale au travail cette nuit. Les députés doivent boucler dans les prochaines minutes l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Et puis Jonas Vingegaard assoit sa domination sur le Tour de France. Il s'impose à Otakam lors de la 18e étape de la Grande Boucle RMC. Il est 5h30. Bonjour à tous.
Soulagement pour plusieurs milliers de personnes autorisées à regagner leur domicile en Gironde.
Plus d'une semaine après avoir quitté leur habitation à la hâte, 6000 des 37000 personnes évacuées ont pu retourner chez elles hier. Les feux sont désormais contenus. Les pompiers s'attellent cependant 24 heures sur 24 à sécuriser les zones brûlées afin d'éviter les reprises de feu. Pour RMC, Florian Chevalet a suivi une équipe spécialisée du côté de la Teste de Buch dans les campings situés au pied de la dune du Pilat.
Déambulant au milieu d'un spectacle apocalyptique, autrefois un camping 3 étoiles au pied de la dune du Pilat dont il ne reste plus rien, le capitaine Gilletschger, une bombe de peinture à la main, identifie et sigle les zones à risque.
Peinture rouge, zone à risque, et peinture blanche, zone reconnue et aucun risque d'identifier.
Ce qu'il traque notamment, ce sont les bouteilles de gaz.
Plusieurs centaines de bouteilles de gaz ont été soumises à la radiation du feu. Plusieurs ont explosé, d'autres n'ont pas explosé. Donc c'est sécuriser cette zone-là pour que les entreprises en charge du déblaiement et du nettoyage fassent ces opérations en sécurité.
Avec son équipe, il passe donc le camping au peigne fin.
Ça a été fait. Ce qu'il faut, c'est faire la zone A et la zone C.
Pour repérer d'éventuels produits chimiques, produits d'entretien, de piscine par exemple, qui auraient brûlé et présentent aujourd'hui un risque sanitaire et écologique.
Et là, on sait ce que c'est liquide par exemple?
Non, pas encore. Non, on fait la première reconnaissance rapide et ensuite on ira avec des équipements particuliers pour se protéger, essayer d'identifier le produit en cause.
Un peu plus loin, d'autres pompiers arrosent les zones où la terre est encore brûlante. Des dizaines de camions coupent des arbres pour éviter les reprises de feu. Ces équipes vont rester mobilisées sur ce territoire de plus de 7000 hectares. Encore plusieurs jours.
Le reportage de Florian Chevalet. Notez qu'en Bretagne, la situation est ce matin totalement stabilisée. Depuis le début de la semaine, un incendie au Mont d'Arrée a brûlé 1700 hectares de végétation.
5h32, Thibaut Texer, l'examen du projet de loi pouvoir d'achat.
Fin des débats à l'Assemblée nationale. L'ensemble des amendements viennent d'être votés. L'heure est aux explications de vote. Depuis lundi, les échanges sont tendus, marqués par de nombreuses passes d'armes. Nouvelle illustration hier soir quand le député NUPES de l'Essonne, Antoine Léaumont, a interpellé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sur les dispositions de l'exécutif visant à parer d'éventuelles pénuries d'énergie.
Tout à l'heure, Madame la Ministre, vous nous avez dit que nous avions du retard sur le développement des énergies renouvelables à cause des problèmes administratifs. Nous nous rendons compte ce soir que vous êtes capable de faire voter l'installation de terminal gazier en dérogeant à toutes les règles de l'environnement, la réouverture d'une centrale à charbon en dérogeant au droit du travail. Vous voyez que quand vous avez des problèmes, vous êtes capable d'aller vite sur certaines choses, aller plus vite sur les énergies renouvelables, rendez la France réellement indépendante pour son énergie.
L'Assemblée nationale qui a par ailleurs voté en faveur de l'utilisation de l'huile de friture comme carburant, un amendement déposé par l'écologiste Julien Bayou. Et puis députés et sénateurs réunis hier en commission mixte paritaire ont donné leur feu vert au projet de loi sanitaire. Le texte prévoit entre autres la possibilité de recourir au pass sanitaire aux frontières et ouvre le chemin vers la réintégration des personnels soignants non vaccinés, soumis tout de même à l'avis de la haute autorité de santé. La guerre en Ukraine avec la signature attendue ce vendredi d'un accord entre Kiev et Moscou permettant la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. À ce jour, 20 millions de tonnes sont bloquées à Odessa, selon Patrick Martin-Génier, spécialiste des questions européennes. Cet accord est très attendu par la communauté internationale.
On ne peut pas se résoudre à ce qu'un tiers de l'humanité puisse mourir de faim en Afrique. Donc, il semblerait que ce soit des concessions qui ont été faites de tous les côtés. Il ne faut pas oublier non plus que le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, sera sur place pour le signer au nom des Nations Unies. Donc, en effet, c'est le premier accord signé, notamment entre l'Ukraine et la Russie. Tout le monde y a intérêt. Et surtout, également la Russie, qui ne veut pas non plus passer pour le pays qui aura empêché l'exportation de ces céréales. Dans la mesure où ça va prendre un certain temps, il est évident que le prix des céréales ne baissera pas du jour au lendemain.
RMC 5h34. L'émotion très vive dans les Pyrénées-Atlantiques mercredi après-midi sous des températures caniculaires. Un nourrisson de 14 mois a été retrouvé sans vie dans une voiture. Le père de l'enfant se serait rendu à son travail oubliant de le déposer à la crèche au préalable. Une crèche située à seulement 2 km de son entreprise dans la commune d'Assat. Jean-Christophe Rawan est le maire.
C'est un drame terrible. Il n'y a aucun mot pour qualifier ce qu'ils vivent aujourd'hui. L'ensemble du personnel de la crèche est totalement effondré. C'est un petit garçon qu'il connaissait bien, qu'il appréciait. Et d'entendre que ce petit garçon était décédé à proximité de là où ils ont travaillé toute la journée a été pour eux une catastrophe. C'est pour ça qu'on a enclenché très rapidement une cellule d'aide psychologique à destination non seulement des parents, mais en particulier des salariés.
Du monde sur la route ce vendredi.
Un bison futé hisse le drapeau orange en départ sur l'ensemble de l'Hexagone. C'est rouge dans la vallée du Rhône. Dans le sens des retours, ce sera compliqué sur le quart sud-est. Un quart sud-est toujours concerné par une vigilance orange à la canicule. 13 départements. Et si vous rejoignez le midi, pensez à prendre des produits anti-moustiques. Et oui, de nombreuses communes du sud sont actuellement concernées par une très forte présence de cet insecte cet été. Illustration au bord de la mer. Hier, c'est à côté de Toulon dans le Var. Bettina de Gouglier et Clémence Fournival.
Lors d'une partie de pêche, Angélique s'est fait dévorer par les moustiques. Elle est recouverte de piqûres.
J'ai compté, j'en ai 186.
Sa mère, Maria, a dû s'équiper en pharmacie.
On a pris des sprays, on a demandé de la pommade. Celle qu'on avait faisait pas trop d'effet, donc on a été obligé de retourner en acheter une plus forte. Ils sont coriaces cette année.
Luc et sa femme, installés à l'emplacement voisin, ont même failli écourter leur séjour.
Alors les premiers jours, l'enfer. L'enfer. Moustiques incessants et très méchants. Ma femme était sur le point de dire « on replie, on repart ».
Jean et sa famille viennent en vacances ici depuis 25 ans. Il n'a jamais connu ça.
On est mangé du matin et alors surtout le soir. L'idéal, c'est de mettre un pantalon assez long. Mais avec la chaleur, c'est pas ce qui convient le mieux.
Cette densité de moustiques est due à un important orage qui a eu lieu fin juin. Conséquence, des points d'eau stagnante ont favorisé leur reproduction. Pour pallier le problème, Camille Bonnet, gérante du camping, a dû s'adapter.
On a fait installer des lampes anti-moustiques. Ça en élimine déjà pas mal. Même s'il en reste, ça limite la casse, quoi.
La durée de vie d'un moustique est d'environ 3 semaines. La situation devrait donc vite s'améliorer.
3 semaines, c'est aussi la durée du Tour de France. C'est stressant, c'est
moi. Sûr.
Surtout qu'on se fait piquer les pieds là-haut à la rédac. 3 semaines, c'est aussi la durée du Tour de France. Le maillot jaune, Jonas Vingegaard, conforte sa place de leader à l'issue de la dernière étape de montagne. Le Danois s'est imposé hier à Otakam avec 1 minute 4 d'avance sur son dauphin Tadej Pogacar. Le premier Français, David Gaudu, termine 4e de l'étape. C'est aussi sa place au général. En tête, au début de l'ascension finale, Thibaut Pinot arrive, lui, en 18e position. Et c'est une nouvelle déception pour le coureur de la Groupama FDJ.
À titre personnel, c'était un Tour de France compliqué. Je suis arrivé pas en forme du tout. Ça aurait été n'importe quelle autre course, je pense que j'aurais pas pris le départ. Donc voilà, j'ai voulu insister. Peut-être que c'était une mauvaise chose, mais au final, je ne regrette pas. Et on a vécu, même si moi, j'étais pas à 100%, on a vécu une sacrée aventure avec l'équipe et c'est ce qu'il faut retenir.
Et le peloton retrouve le place vendredi, 19e étape entre Castelnau, Magnoac et Cahors, à suivre dans l'intégral tour sur RMC dès 14h.
Les courses, attention, parce qu'il y a un bruitage de chevaux qui va arriver bientôt, je pense. Les courses, c'est à Cabourg ce vendredi.
Et oui, Cabourg, rendez-vous à 20h15 ce soir sur RMC Découverte. Le 5, Happy Valley, est le favori de la Dream Team RMC. Son outsider, c'est le numéro 6, Frenchman, le 5 et le 6.
Est-ce qu'on attend Fabien à la régie qui va...
Ah, voilà.
Il est formidable. Nous avons le meilleur technicien de l'histoire de l'humanité derrière la vitre. Merci beaucoup Thibaut Texer. On passe à la Story Sport.
La Story Sport.
Et on parle de Formule 1 avec vous, Cédric Dandeville. Bonjour.
Bonjour.
La 12e étape du championnat du monde. Les pilotes ont rendez-vous dimanche au Castellet pour le Grand Prix de France qui vit peut-être ces dernières heures.
Oui, est-ce la dernière fois que l'on voit des F1 dans le pays même où est né le mot de Grand Prix? La question est clairement posée. Le contrat entre la Formule 1 et le Grand Prix de France prend fin ce dimanche et le circuit Paul Ricard est pour l'instant rayé du programme de la saison prochaine. Cela fait pourtant 5 années que la France a retrouvé une date au calendrier de la F1. On est en 2018. Après une décennie de disette, Christian Estrosi, président de la région PACA, se félicite de retrouver un grand événement populaire autour de la voiture.
C'est pas quelque chose réservé à une élite, c'est au contraire quelque chose qui doit se tourner vers des gens de toutes conditions qui aiment la bagnole. Moi, je crois qu'il y a une majorité de gens qui ne pouvaient que regretter que la France, premier organisateur en 1906 d'un Grand Prix, depuis 10 ans ait perdu son Grand Prix. C'est une part de dignité retrouvée aujourd'hui.
Alors ça, c'était donc il y a 5 ans, et dans quelques heures, retour à la case départ pour la France, hein, sans doute.
Oui, entre-temps, il faut dire que la Formule 1 a beaucoup changé. Elle est devenue ultra attractive. Pour se faire de la pub, certains pays sont prêts à mettre le prix pour avoir leur Grand Prix. Pour l'Arabie Saoudite, on parle de 50 millions d'euros d'investissement contre 20 seulement pour le Grand Prix de France. On comprend que la F1 se tourne vers de nouveaux horizons. Heureusement, la France a encore quelques arguments, à commencer par ses pilotes, Pierre Gasly notamment.
C'est vraiment un week-end unique. Je suis patriote et je défendrai toujours au maximum le Grand Prix. Et personnellement, c'est un Grand Prix qui apporte des émotions comme nulle part ailleurs. Donc je ferai toujours le maximum de mon côté pour le garder.
L'autre représentant tricolore du paddock, c'est Esteban Ocon, qui en plus défend les couleurs de la seule écurie française Alpine. Le Grand Prix de France, c'est son Grand Prix.
Je vais savourer mon Grand Prix de France. Je vais travailler dur avec mes ingénieurs pour qu'on ait un bon résultat ici et qu'on fasse plaisir à tout le monde. Et puis par la suite, bien sûr, avec ces rumeurs qui courent, on va essayer de trouver des solutions pour la suite. Il va falloir se batailler, je pense, pour qu'il y ait un Grand Prix qui soit réorganisé. Mais il y a des possibilités. On a un super beau pays avec une grande communauté de sport automobile.
Voilà, et ce week-end, ce sont pas moins de 200 000 personnes qui sont attendues sur le circuit Paul Ricard.
Alors, est-ce que ça peut suffire à sauver le Grand Prix de France ?
Pas sûr du tout, d'abord, parce que ce que la F1 attend, c'est du clinquant, du show autour des Grands Prix. En gros, il faudrait à chaque fois une méga fête façon Super Bowl. Et on l'a dit, la France ne met pas les mêmes moyens que ses concurrents saoudiens, qataris ou américains. Aujourd'hui, parmi les pistes pour faire perdurer le Grand Prix de France, il y a une organisation en alternance d'une année sur l'autre avec la Belgique. On parle aussi d'une course plus spectaculaire en ville, dans les rues de Nice, sur le modèle de Monaco.
Bon, vous nous raconterez la suite, Cédric Dandeville. Merci beaucoup, c'était la Story Sport. Vous continuez à réagir ce matin à l'actualité au 32-16 sur l'appli RMC onglet Direct Studio. C'est la fin d'un symbole, d'une époque, même dans les bureaux de poste. Dès le 1er janvier prochain, le timbre rouge disparaît. C'est la Poste qui l'a annoncé hier. À la place, une e-lettre rouge à envoyer via Internet sur le site laposte.fr. Il restera toujours le timbre vert qui permettra d'envoyer le courrier sous 3 jours à la place de 2, mais plus de timbres prioritaires physiques, donc une révolution qui est loin de conquérir tous les usagers et encore moins les syndicats, Garance Munoz.
Désormais, pour envoyer un courrier urgent, il faudra passer par Internet, écrire sa lettre sur le site et pour 9 centimes de plus, la Poste s'occupe d'imprimer et de la transmettre. Plus besoin de coller son timbre rouge.
J'ai déjà fait pour des lettres de résiliation et c'est franchement très bien. Faut vivre avec son temps.
Une innovation pratique pour ceux qui sont plus à l'aise avec leur stylo qu'un clavier, c'est loin d'être le cas.
Tous les 15 jours, une nouvelle invention. C'est infernal.
Donc, par définition, je suis contre parce que j'exècre Internet.
Ah, ça, je trouve ça barbant. Parce que moi, Internet, à mon âge, je suis plus doué du tout.
Des usagers sceptiques et déjà nostalgiques, ils craignent que la fin du timbre rouge soit un pas de plus vers la fin du courrier.
C'était vraiment une forme de culture, le timbre. C'était l'occasion de voir des choses qu'on ne soupçonnait pas. Il y a un symbole, il y a un décorum, c'est pas n'importe quoi d'envoyer une lettre.
On écrivait au stylo plume, c'était magnifique. Les stylos plumes, ça devient des objets de collection. Je garde les miens précieusement, mais bon.
Même les petits-enfants, avant, on les obligeait à écrire une lettre aux grands-parents. Maintenant, c'est dépassé, ils téléphonent. Ça va plus vite.
De fait, l'envoi de lettres au tarif prioritaire a été divisé par 14 depuis 2008. C'est bien pour ça que la Poste transforme ce service. La lettre verte, elle, continue d'exister, mais son délai d'expédition est allongé de 2 à 3 jours. Pour Pascal Frémont du syndicat Sud PTT, c'est surtout une manière de diviser le nombre d'emplois.
Le fait d'acheminer en J+3 et non pas en J+1, ça va diviser par 2 le nombre de postières et de postiers, spécialement au courrier et à la distribution. Pour pouvoir malheureusement mettre dehors une énorme quantité, une proportion d'intérimaires qu'elle a embauché depuis des années.
Et ce sera la fin du passage quotidien du facteur, regrette-t-il.
C'est un séisme, en tout cas une révolution négative. Tous les services de proximité que les facteurs et factrices rendaient, qui vont disparaître puisqu'on ne passera plus partout.
Il s'inquiète aussi de la confidentialité de ces e-lettres rouges que les postiers imprimeront eux-mêmes. La Poste, elle, assure que la vie privée sera respectée grâce à des impressions automatisées et sécurisées.
Et vous réagissez ce matin à la fin du timbre rouge et à ces emplois qui pourraient être supprimés. Phil nous a appelé au 32-16 pour nous dire enfin fini les timbres, plus facile de faire ça par Internet. Quand on envoie très peu de lettres, c'est mieux de faire ça par Internet et non d'aller chercher un timbre à la Poste. J'accueille Jackie. Bonjour Jackie.
Oui, bonjour.
Jackie, vous avez composé le 32-16 pour réagir à ce reportage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la fin du timbre ?
Bah, il y a trop que la fin du timbre. La fin du timbre, bon, c'est une suite, hein. C'est le dernier wagon du train. Plus ça va, plus on enlève les services.
Et oui.
Moi, je suis complètement contre pour la simple unique raison, c'est que, en France, il reste des personnes âgées qui ne savent pas manipuler Internet, qu'ils ne savent pas. Donc, ils vont être obligés de se déplacer. Ça, faut y penser. Mais je crois que les personnes qu'on a mis en poste, les politiciens ne pensent qu'à eux, quoi. Sans compter les emplois, parce que moi j'ai.
Ils pensent qu'à faire des économies.
Mais les économies, monsieur. Alors si vous voulez aller par là, est-ce que je peux élargir le sujet?
Élargissez, allez-y, Jackie.
Bon, pas plus tard qu'hier, qu'est-ce que vous avez fait? Une émission sur la consommation d'électricité qu'on doit réduire.
Oui, c'est vrai.
Tout en sachant, monsieur, que d'après la version qui a été dite ce matin, on va consommer davantage avec les Wi-Fi.
Oui.
D'accord? Déjà d'une. Empêcher les personnes âgées, monsieur, est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense dans ce pays? Je ne crois pas.
Mais Jackie, c'est deux problèmes différents, les timbres à la poste et la consommation d'énergie.
Non, pour la simple et unique raison, c'est que vous avez dit ce matin, il faudra utiliser Internet.
Oui.
Internet, monsieur, c'est de la surconsommation électrique, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Mmh. C'est exactement ça.
Okay.
Le problème, moi, j'ai 72 ans, je continue à travailler, je ne maîtrise pas Internet. Je ne maîtrise pas. Moi, quand ma fille est à la maison, elle peut éventuellement m'aider.
Ouais.
Mais quand je suis seul, monsieur, je suis dans la smoule. D'accord. Alors il me reste la.
Donc si simplement pour résumer votre pensée, si je comprends bien, oui. Les économies d'énergie, vous êtes pour quand ça se fait pas aux dépens du service public.
Mais bien sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous reste, monsieur? Et vous le savez très bien, vous êtes citoyen français. Qu'est-ce qui reste comme service public en France?
C'est vrai que la poste.
Les cartes d'identité, monsieur, avec une attente de 6 mois.
Ouais.
Les préfectures, il n'existe plus de guichets.
Il faut faire quoi, selon vous, Jackie? Il faut embaucher plus de monde. Il faut garder ses postes.
Mais bien sûr, la caisse primaire d'assurance maladie, monsieur. On aimerait. Alors tout est sur Amélie, la pauvre, elle doit être débordée de boulot, hein.
Ouais.
D'accord. Vous n'arrivez plus à joindre qui que ce soit. On se demande d'ailleurs pourquoi on paye des impôts. On se demande, on s'interroge. Pour la simple et unique raison, c'est qu'il n'y a plus de services publics en France. Il n'y a plus.
Et vous pensez que c'est un problème politique? Vous pensez que si un autre homme politique ou femme politique était arrivé au pouvoir il y a 3 mois, ça aurait changé quelque chose?
Absolument pas, parce que monsieur, depuis monsieur Jacques Chirac, les fossoyeurs, et j'appuie sur les mots, les fossoyeurs de la France se sont succédés. Elle n'allait pas de progrès en progrès, d'après ce qu'ils disent, mais de régression en régression.
Bon, c'est votre avis, Jackie. J'ai une dernière question, Jackie, la question du jour. C'est le prix de l'essence. Vous avez une voiture?
Oui, tout à fait. Et je peux pas partir en vacances. Je travaille puisque je suis porteur de presse, monsieur. J'ai l'intention de m'arrêter.
D'accord. C'est un vrai problème pour vous, le prix de l'essence. L'essence est vraiment arrivée à un prix exorbitant qui vous empêche de faire certaines activités.
Mais bien sûr, mais le réel problème, monsieur, moi c'est même pas mon problème, ça va devenir celui de l'État. Je m'explique. Moi, demain, si j'arrête de bosser avec la mini-retraite que j'ai, je vais avoir le droit à toutes les aides. Les APL. Aujourd'hui, je paye mon loyer plein pot, 700 euros. Demain, si j'arrête de bosser, comme il se base sur mes revenus, ça sera l'État de compenser. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois, je comprends bien, Jackie.
Et je serai gagnant. J'enlève le carburant, j'enlève ma fatigue, j'enlève...
Merci beaucoup, voilà. Jackie. Merci de nous avoir appelé au 32-16 ce matin. Vous nous appeliez de Nantes. Et je vous souhaite un très, très bon week-end. Le retour de l'actu. 5h51 sur RMC. À l'Assemblée, les députés votent à l'instant le projet de loi pouvoir d'achat après une nuit de débats houleux entre la majorité et les oppositions. Les députés de la NUPES ont notamment fait bloc contre le retour aux énergies fossiles voulu par le gouvernement pour parer à d'éventuelles pénuries. Une bonne nouvelle sur le front des incendies en Gironde. Les feux qui ravagent le département depuis bientôt 10 jours sont en voie d'être fixés. Ce matin, les pompiers voient le bout du tunnel et c'est le soulagement pour 6000 personnes évacuées, enfin autorisées à rentrer chez elles.
J'ai l'impression de redécouvrir ma maison comme une petite fille, en fait. Vérifier que tout allait bien, retrouver mes animaux aussi qui étaient en sécurité, heureusement, quand on n'était pas là. Il faut quand même rester vigilant et continuer à suivre les actualités.
Reportage dans le journal de 6h. Un coup d'œil à la météo, Anthony Kazmarek.
Et attention aux orages qui vont traverser une bonne moitié nord du pays aujourd'hui. Ils seront violents dans l'après-midi vers la Haute-Normandie et la Picardie. On attend une alerte orange sans doute à 6h. Et puis dans l'ouest, vous allez retrouver un temps sec mais bien nuageux. Le soleil va se réfugier près des frontières de l'Est et vers la Méditerranée où il fera encore très chaud avec encore 13 départements en vigilance canicule. Vous aurez entre 35 et 39 degrés de la vallée du Rhône au littoral méditerranéen. Partout ailleurs, 27 à 33 degrés, 27 à Bordeaux, 28 à Paris, 32 à Toulouse et 21 à 25 près de la Manche.
Votre rendez-vous culture, l'été d'Angèle, c'est tout de suite.
L'été d'Angèle.
L'été d'Angèle avec Angèle Châtelier, bonjour.
Bonjour Pierrick, bonjour à tous.
Vous nous emmenez tout l'été en festival et vous nous donnez les meilleurs conseils culture. Et on sait qu'il y a tous les ans quelque chose qui revient à cette période. Vous les entendez partout quand les beaux jours arrivent. Ce sont les tubes de l'été.
Ouais, je suis certaine que vous en avez tous en tête. Hein, la Macarena, la Lambada. Oui. C'est quoi pour vous, Pierrick, le tube de l'été ultime?
Oh, pff.
Ouais, ça, on en a parlé à la rédaction ce matin.
Ça doit être Wes.
Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup, je pense. Alors, chaque année, effectivement, c'est la même rengaine. Quel sera le tube de l'été 2022? Est-ce que vous avez une petite idée, Pierrick?
Absolument pas. Absolument, moi, je suis resté bloqué dans les années 90.
Alors, moi, j'ai des petites idées. Il y a notamment Harry Styles, As It Was, qui tourne en boucle depuis des mois. Je suis certaine que vous l'avez déjà entendu au moins une fois.
Ah oui.
Harry Styles, c'est l'artiste de l'année, un phénomène planétaire. Son dernier album, Harry's House, a été numéro 1 des ventes à sa sortie en France. Autre fait que je trouve extrêmement intéressant et significatif, Harry Styles a battu un record, celui de la meilleure vente de vinyle aux États-Unis. Et oui, en 3 jours, il s'est vendu à 146 000 exemplaires et c'est énorme.
Et ça prouve donc une nouvelle fois que le streaming n'a pas tué le vinyle. Quelles sont tes autres prévisions, sinon Angèle, pour les tubes de l'été 2022?
Alors, il y en a une qui, quoi qu'elle chante, fait depuis plusieurs années un tube de l'été. Il y a eu Dja Dja, Pookie, Doudou. Bon, vous voyez ou pas? Vous voyez?
Oui, bien sûr, oui.
Et effectivement, cette année, je suis prête à parier que vous entendrez une chanson d'Aya Nakamura partout.
Oui.
L'un des nouveaux singles d'Aya Nakamura, artiste francophone la plus écoutée dans le monde, qui cumule des millions de vues et d'écoutes sur la moindre de ses chansons. Impossible de passer un été sans Aya Nakamura en tête de file, donc une nouvelle fois cette année, près de Beyoncé qui est revenue de manière tonitruante avec un nouveau titre House il y a quelques semaines, Break My Soul. Beyoncé, d'ailleurs, notez-le, qui sortira un nouvel album vendredi prochain.
Et vous devriez voir Angèle se mouvoir à chaque tube. Je sais que tu aimes bien le rock, toi, oui. Angèle. Est-ce qu'on aura un petit tube rock cet été?
Alors, c'est possible, et ça, c'est grâce à leur victoire à l'Eurovision l'année 2021. C'est les Italiens de Maneskin qui avaient donc gagné cette Eurovision. Ils ont sorti, il y a quelques semaines, une nouvelle chanson, Supermodel, et ça a tout d'un tube de l'été. Déjà 11 millions de vues sur leur clip sorti il y a un mois.
Non, mais là, on entend que oui, hein, ce sont de potentiels tubes qui vont être matraqués sur les radios. Mais concrètement, c'est quoi un tube de l'été, Angèle?
Ça doit respecter un certain nombre de codes, un refrain dynamique, des textes simples qui se retiennent facilement, des tonalités positives et joyeuses, parce que le but quand même d'un tube de l'été, c'est de danser dessus, l'entendre sur la plage pendant qu'on fait ses courses en vacances comme en boîte de nuit.
Ouais.
Et parfois, ce sont les réseaux sociaux qui font le succès d'un titre. C'est le cas de la française Adèle Castillon et de sa chanson Impala, nouvelle chanson à la mode chez les ados, grâce notamment à TikTok.
Merci. Merci Angèle Châtelier, les tubes de l'été. Et on verra dans quelques minutes, hein, un peu avant 8h, je crois, quel est le tube de l'été préféré de Sébastien Krebs, que j'ai je hâte. Salue. Bonjour Sébastien.
Salut Pierrick Bonneau, salut Angèle, ça va, vous êtes bien réveillé?
Oh,
grâce
oui.
à la musique.
Grâce à la musique, c'est génial. Vous allez voir.
À tout à l'heure Angèle, à évidemment. Et à tout de suite pour Apolline Matin jusqu'à 9h. On va beaucoup parler de pouvoir d'achat ce matin. Et à l'instant, l'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi justement sur le pouvoir d'achat. On vous parle de tout ça, on vous raconte et on parle de notre budget vacances. Je vous attends au 32-16. À tout de suite.